Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. On vous attend évidemment dans l'After. Ensemble au 32-16, l'After, l'émission qui vous garantit une liberté d'expression totale. Au 32-16, bien sûr, ce soir, Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Et Walid Acherchour, salut Walid.
Salut Gilbert, salut Flo, salut à tous.
Ligue 1 au programme, mais aussi foot espagnol, parce que le match Real-Barça n'est pas terminé, Johan Brelove.
Exactement, deux buts partout entre le Real et le Barça. 88e minute de jeu. Christensen pour Barcelone qui a ouvert le score à la 6e. L'égalisation de Vinicius à la 18e. À la 69e, Fermín López permet au Blaugrana de repasser devant. Et c'est Lucas Vázquez pour le Real Madrid qui est venu marquer le deuxième but et égaliser. Deux partout, donc encore deux minutes à jouer dans le temps réglementaire. Dans ce classico Real Madrid FC Barcelone.
Tout à l'heure, Fred Hermel sera avec nous pour nous faire son analyse. On va parler Ligue 1 longuement, bien sûr. La victoire tranquille de Paris face à Lyon 4-1. Monaco qui gagne à Brest également, match important aujourd'hui. Marseille qui s'accroche à Toulouse 2-2. On va en parler de tous ces matchs d'ici minuit. Et puis on a également du rugby, match qui n'est pas terminé entre Bordeaux et Clermont. Romain Asselin, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde. 76e minute, c'est Bordeaux qui va s'imposer, peut-être avec le bonus offensif. Pour l'instant, ils l'ont léger. On a un 34-7, 4 essais à 1. Et ils sont à 10 mètres de la ligne d'en but adverse.
À tout à l'heure. Les 3 points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points de débat de Florent, de Walid, après Paris, Lyon et après la journée de Ligue 1. Florent.
L'imprévisibilité théorisée par Luis Enrique et validée dans une interview ce week-end par Pierre Sage, s'est retournée contre Pierre Sage parce que effectivement le turnover a marché et des joueurs impliqués immédiatement dans le match, ça s'est vu. Et je pense à Ramos notamment qui a marqué un doublé. Il avait déjà marqué un doublé contre Marseille. En deux, les intentions lyonnaises quand même, parce que en fait, ce qui a permis ce notamment ces buts en transition et cette victoire parisienne, c'est aussi le fait que Lyon, ça s'est peut-être pas vu parce qu'ils ont été vraiment surclassés par moments, mais ils avaient des intentions. Le début de match était bon. Ils ont mis fin à l'hémorragie aussi avec les changements de Pierre Sage à la mi-temps. Mais surtout, je voulais parler quand même des intentions parce qu'il y a quand même une belle équipe. Puis le troisième, c'est la victoire de Monaco à Brest. J'avais fait un avis pour dire qu'il fallait absolument qu'ils soient sur le podium et même deuxième. Ils y sont. Après, il y a plein de choses à dire sur ce match et sur le match de l'OM. Donc, je laisse Walid pour s'il a d'autres points.
Walid, tes 3 points.
Mon premier point, c'est la victoire du Paris Saint-Germain qui se rapproche du titre avec une très très bonne première mi-temps, peut-être la meilleure de la saison en Ligue 1, avec un gros turnover. Mon deuxième point, c'est l'Olympique Lyonnais, comme vient de le dire Flo. Des intentions, mais j'ai pas tout compris dans ce qu'a voulu faire Pierre Sage, notamment en première mi-temps. Heureusement qu'il a rectifié en deuxième, et ça va être la marge de progression de Pierre Sage, je pense, sur les prochaines semaines, parce que ça commence à devenir récurrent. Et mon troisième point, c'est oui, Monaco et Lille qui font la grosse opération, parce qu'avec un match en moins, Lille revient petit à petit sur Brest et Monaco s'échappe pour cette deuxième place. Voilà mes 3 points.
Alors précisons quand même que le PSG peut être champion dès mercredi.
Oui.
Tu es au courant? En fait, il y a un cas très simple, c'est qu'il y a les trois matchs décalés. Donc si le PSG gagne mercredi,
contre Lorient,
et voilà, que dans le même temps Monaco ne bat pas Lille, et bien Paris sera champion.
Bon.
Pas non ouais. plus,
on s'y attendait.
La surprise de l'année, hein, bien non, sûr.
C'est pas l'info du siècle.
Oui. C'est pas l'info du siècle. Mais ça peut être des mercredis quand même.
À Lorient, où d'ailleurs on regardera aussi le turnover qui est assez intéressant.
Oh, but du Real, les gars.
Bellingham. Oh, le 3-2. Et qui d'autre que Jude Bellingham pour venir marquer pour le Real Madrid. 3-2. On est dans le temps additionnel. Mais quel match! Quel match! On s'est ennuyé ferme pendant 60 minutes. Et puis ça s'est complètement emballé. 3-2 pour le Real Madrid qui s'envole en tête de la Liga. But de Jude Bellingham.
Bellingham, il a décidé cette année d'avoir toutes les images marquantes avec le Real Madrid. À l'aller, c'est lui qui change la physionomie de la rencontre en mettant un doublé. Et là, ce soir, 91e minute, célébration à la Bellingham. Il va marquer, il va donner le titre au Real parce que là, ça fait 11 points.
Là aussi, c'est pas une surprise.
Voilà, terminé.
Exactement. Bon, score final à suivre dans quelques instants. Paris a surclassé Lyon quand même. Dans un match qui sera aussi la fin de la Coupe de France.
Ouais, mais c'est intéressant effectivement parce
que Mbappé et Dembélé.
Je reviens sur mon premier point sur l'imprévisibilité. C'est pas pour faire ma fixette à moi pro Luis Enrique. Mmh. C'est pour dire voilà les effets que ça peut avoir quand tu intègres tout le monde et quand tu multiplies effectivement les schémas.
Déjà les effets positifs.
Effets positifs effectivement parce que quand les joueurs entrent, est-ce que tu as l'impression d'un truc expérimental, d'un truc où tu te demandes si ça va fonctionner? Non, ça fonctionne parce qu'évidemment, ça n'a pas fonctionné à une époque d'ailleurs. Mais oui, ça fonctionne parce que Ramos, il entre en neuf, il a la confiance du coach, il sait d'ailleurs que peut-être contre Dortmund, si ça se trouve, si les choses évoluent, il peut très bien être neuf à un moment donné. Les joueurs ne savent pas s'ils vont jouer ou pas jouer et ils sont au taquet. On a vu un très bon Asensio en première période, on a vu un très bon Ramos, un moins bon Colomoigny, on y reviendra sans doute, mais c'est en ce sens que je pense qu'effectivement cette gestion sous pression de l'effectif, cette gestion en challengeant les joueurs et en faisant cette rotation en impliquant tout le monde, elle donne un match contre un gros du championnat et en forme avec un double effet, parce que t'as la victoire, c'est une chose, mais t'as effectivement aussi un coup marqué par rapport à la finale de la coupe, parce que Pierre Sage l'a dit dans son interview, effectivement, par rapport à Luis Enrique. Quelle équipe Luis Enrique va lui mettre? Quelle tactique il va lui faire pour arriver à la finale de la Coupe? Parce que tu pourrais dire, ah bah oui, mais ils sont prévenus, sauf qu'il y aura peut-être, il y aura Mbappé et Dembélé sur la finale de la Coupe, comment ils vont faire, toi, à Lyon? Donc, moralement, psychologiquement, grosse victoire encore ce soir de Luis Enrique aussi, y compris la sur Pierre Sage, qui effectivement, comme l'a dit Walid, en plus, a pas fait sans doute meilleur match en compo.
Surtout, Flo, c'est que trois jours, quatre jours après la Ligue des Champions, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'énergie tout ce qui est notamment sur le côté psychologique de ces rencontres-là, avoir ce pouvoir se régénérer avec une composition d'équipe remaniée et proposer ce football-là, sincèrement, moi, sur la première mi-temps, je suis impressionné. Les circuits de passe, t'as parlé d'Asensio, t'as parlé de Ramos, le centre d'Hakimi, ce qu'a fait Barcola aussi sur la première mi-temps, où il a fait passer une première mi-temps à Maitland-Niles, ça a été un cauchemar pour lui. Vitinha, ce qu'il fait sur le quatrième but notamment, Cacré, vas-y, viens au pressing, c'est pas grave, je vais pouvoir relancer. Il a encore montré pourquoi il était numéro 6 et pas numéro 8. La deuxième mi-temps a été un peu moins bonne. Il y a eu pas mal de gestion et pas mal de d'occasions concédées pour l'Olympique Lyonnais, mais sur la première mi-temps, moi j'ai été véritablement émerveillé par ce qu'a proposé le PSG. Sans Ousmane Dembélé, sans Kylian Mbappé, sans Fabien Ruiz, sans Lucas Hernandez, sans Nuno Mendes.
En fait, il n'a pas eu besoin de les faire rentrer.
Oui, non, mais Nuno Mendes est hors du groupe. Lucas Hernandez est suspendu. Ugarte, je crois, la même chose, même s'il n'est pas, c'est pas un titulaire. Fabien Ruiz, préservé. Tu fais rentrer Milan Skriniar, tu fais rentrer Mayululu, tu fais tourner ton effectif. Et comme vient de le dire Flo, j'ai l'impression d'avoir un effectif au complet concerné. Il y en a qui peuvent lâcher, il y en a qui peuvent être moins bien, et c'est pas le cas. Et quand je vois la première mi-temps sur le rendu état d'esprit, plus sur le rendu technique collectif, c'est encore une victoire de Luis Enrique ce soir.
Après, il y a deux choses.
Alors, ce n'est pas Mayululu, c'est mais Mayulu.
Mayulu.
Après, ça peut être Mayulululu.
Oui.
Ça peut être juste Mayulu.
J'ai rajouté un loup.
Ouais. Ça peut devenir un surnom.
Ouais.
Mais pour revenir à ce qu'a fait soir Luis Enrique, c'est intéressant quand même après de regarder aussi ce qui marche moins bien. Parce que dans cette équipe-là, on a la coutume de dire, bah voilà, c'est beau, en Ligue 1, ils sont forts, et des fois, on les voit trop beaux parce que c'est la Ligue 1. Je pense à deux choses. Un, Donnarumma, par exemple, qui était très bon ce soir. Ouais, il a été très bon sur ses points forts.
Attends, je vais t'arrêter. Sur sa ligne. Après, tu reprends à Donnarumma. Juste, les deux matchs sont terminés. Terminé entre le Real et le Barça, Johan.
Et la victoire, 3-2 des Madrilènes qui sont allés la chercher. Barcelone avait ouvert le score à la 6e. Christensen, égalisation de Vinicius sur pénalty à la 18e. Le Barça a été repassé devant à la 69e par Lopez. Et Lucas Vazquez à la 73e, pardon. Et surtout, Jude Bellingham dans le temps additionnel qui apporte la victoire au Real qui s'envole vers un 36e titre de champion dans son histoire. Histoire, 11 points d'avance en tête de la Liga pour le Real Madrid.
Terminé au rugby également, Bordeaux-Clermont, Romain.
Avec la large victoire 41-7 de l'Union Bordeaux-Bègles pour refermer cette 21e journée. Bordeaux qui s'est fait très peur dans la dernière minute avec un geste défensif incroyable de Bielbiaré pour sauver le bonus offensif. Et 10 secondes plus tard, Damien Penaud qui s'est tapé un sprint de 100 mètres pour aller marquer son troisième essai de la soirée. Large victoire de Bordeaux qui réintègre le top 6 à la 5e place ce soir.
Merci Flo, tu peux repartir. Ouais.
Donc sur Donnarumma, c'est juste pour dire, t'as pas vu aujourd'hui ce soir de sortie aérienne ou de relance au pied nécessaire qui peuvent te permettre de dire que là-dessus il y a pas de souci. Non, il y a des soucis là-dessus, on le sait. Et sur la défense aussi, le but lyonnais est intéressant. Il y a pas de pressing sur le porteur. Le Beraldo, pareil, si tu regardes bien sur 2-3 actions qui sont pas dangereuses. Tu concèdes. Et ça, c'est Lyon. C'est Lyon, c'est la Ligue 1. Les frappes de Dortmund, elles seront encore pires que celles de Lyon. Les actions offensives aussi. Donc, Voilà, c'est juste, je mets juste ça comme bémol.
Après, t'es aussi conditionné par le score parce qu'il y a 3-0 très très rapidement.
Ouais, mais même. T'as 3-0, t'es à 30e minute. N'importe quelle grande équipe, faut monter sur le porteur.
Oui, bien sûr.
À frapper. Bon, très bien. Ça a relancé, entre guillemets, le match.
Ça m'aurait plus dérangé si le score était un peu plus étriqué. La même chose en deuxième mi-temps. Moi, si tu veux mon avis, ça concède beaucoup trop en deuxième mi-temps. Il y a beaucoup trop de frappes, il y a celle de Cacré
d'ailleurs,
notamment.
Il y a plus de frappes que
je comprends vos arguments pour cette ode à la gestion de Luis Enrique. Quoique sur Direct Studio, j'ai Wasabi qui lui dit quand même, je pense que Kurzawa a lâché un peu.
C'est vrai qu'il l'a pas beaucoup appliqué.
Et
Mukiele aussi.
Mais moi, ça me contrarie que Mbappé joue pas un match comme ça. Je veux dire, c'est PSG Lyon. Bon, ok. Est-ce qu'au Real, tu vois Bellingham, Vinicius souvent passer un match entier sur le banc? Est-ce qu'au Bayern, tu vois Riquelme passer un match très intéressant.
Guardiola,
moi, je préfère Guardiola, Mbappé démarre, quitte à ce qu'il sorte. À la mi-temps, voilà, 60e.
T'as vu Mbappé 600 fois. Ça te dérange si ce soir tu l'as pas.
T'as le meilleur joueur du monde, fais-le jouer.
Mais attends, il joue.
T'as une gestion à avoir, t'as un match dans 3 jours.
C'est la première fois que le PSG se présente.
Tu peux gérer en le faisant démarrer. Et
c'est quoi le sort? C'est les demi, c'est la finale.
C'est la première fois que le PSG se présente à ce moment de la saison en récupérant des blessés plutôt qu'en subissant des blessures ou des suspensions. Tu as un match mercredi, je te rappelle, tu as un match mercredi, tu as après un enchaînement qui est de la gestion. Qui plus est sur des vrais titulaires, quitte à les faire rejouer, il va jouer Mbappé. Je veux dire que là, moi je prends ça un peu comme un outrage pour les remplaçants, pour Ramos. Je veux dire, le mec, non, tu vas jouer, mais pas trop, parce qu'il y a quand même le meilleur joueur du monde. Non, mais
c'est
peu
normal,
importe.
C'est le meilleur.
Mais peu importe.
Et alors, parce que c'est le meilleur, en fait, il doit jouer tous les matchs.
Bah ouais.
Non, mais c'est souvent plein au Paris Saint-Germain de ne pas pouvoir mettre au frigo sur ce type de match les grands joueurs pour qu'ils soient très, 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 très bons au bon moment. Et donc ce soir, on va chouiner.
Le seul qui doit être fâché, et je le comprends, c'est Mbappé. Le seul qui peut être fâché. Moi, le reste, les supporters et autres, ils ne doivent pas être fâchés.
Mais bon, le problème, c'est que comme par hasard, c'est depuis qu'on apprend qu'il s'en va que c'est comme ça. Donc, évidemment que si.
Ah, donc tu penses que s'il s'en va pas, il peut pas être sur le banc,
parce que les joueurs reviennent sur le terrain avec un t-shirt.
C'est pour Marquinhos.
Un hommage à Marquinhos qui a battu le record de matchs joués avec le PSG.
Non, par rapport à
du coup Mbappé, on va le voir sur la pelouse. Tiens.
Par rapport à ça, tu as les autres coachs. On le dit souvent, mais ils l'ont fait, ils l'ont sorti. Klopp l'a fait encore récemment avec Salah. C'était pour de la gestion, d'ailleurs. Oui. C'était pas du tout pour des raisons tactiques.
Salah contre l'Atalanta, Salah et Luis Diaz sont sur le banc à l'aller. Ils ont pris 3-0 sur un quart de finale aller de Ligue Europa pour les préserver sur le match de Première Ligue. Erling Haaland et Kevin De Bruyne, ils sont souvent sur le banc pour les préserver. Je vois pas pourquoi nous en France. Il faudrait que Kylian Mbappé, c'est quoi? C'est une représentation en fait. On est obligé de l'avoir à tous les matchs.
Oui, tu vas me trouver un match de Salah, un match de Haaland mais globalement, il joue 99% des matchs.
Non, pas
99%. La réalité, Gilbert, du niveau de ce PSG là. Je parle globalement de cette année.
Après, le scénario fait qu'il a pas besoin de le faire rentrer. Mais plus tard.
La logique est que si tu fais ce choix là, effectivement, tu le fais pas rentrer parce qu'en plus le scénario du match n'invite pas à le faire rentrer. Et t'as un match mercredi. La deuxième chose, c'est que je répète. Depuis le début de la saison, que si Luis Enrique fait aussi tout cela, c'est parce qu'il n'a pas une très grande équipe. Il ne pense pas avoir la meilleure équipe et il a raison. Ça n'est pas la meilleure équipe d'Europe. Donc il a décidé de faire en sorte d'avoir pour les top matchs ses joueurs au maximum parce qu'il ne peut pas se permettre de faire autrement. C'est aussi ça
marche,
la réalité.
Ça marche.
Mais il a pas son Barça 2015, Luis Enrique là. Donc c'est ça la réalité aussi. Donc il arrive à faire avec une équipe qui a des points faibles. On vient d'en parler, estampillé le gardien sur certains points, la défense centrale, on le sait. Et donc il gère.
Mbappé, Dembélé est aussi sur le banc. Ça te dérange que Dembélé soit sur le banc?
Moins.
Mais pourquoi?
Parce que moi je veux voir les grands joueurs, c'est tout.
Et Dembélé fait pas partie des grands joueurs.
C'est pas chapeau 1 des meilleurs joueurs du monde.
D'accord, donc en fait, l'histoire c'est que toi ce que tu veux voir toi c'est un match avec Mbappé.
Mais par contre, il s'en va, bientôt. Et en fait vous rendez pas compte de ce qu'on perd.
En fait vous rendez pas compte de ce qu'on perd.
Ah donc on a plus la télé en fait l'année prochaine.
On parle de Ligue 1. Moi je te parle de la Ligue 1.
D'accord.
T'as le meilleur joueur du monde en Ligue 1. Encore pendant là 4 matchs de championnat.
Mais tu préfères quoi? Tu préfères
profite mon vieux. Toi tu préfères le voir sur le banc. Très bien, c'est ton choix.
Et quand en finale
regarde-toi avec Barco.
J'ai l'impression, Gilbert, d'avoir des footix qui disaient je veux voir Messi, j'en parle juste pour voir Messi.
Gilbert, je te pose une question. Quand en demi-finale, il sera éreinté,
c'est pas pareil, on sait très bien qu'ils n'avaient pas un comportement exemplaire.
Ah, d'accord, ok, mais quand en finale ou quand en demi-finale, il sera éreinté, ton Mbappé, hein? Tu diras, mais pourquoi il l'a pas préservé?
Je te dis pas, déjà. Il y a un peu de temps, parce que le match.
Attention, c'est dans 10 jours.
Moi, je te dis pas qu'il faut qu'il joue le match entier.
Il y a un peu de temps, c'est dans 10 jours.
Je te dis pas qu'il faut qu'il joue le match entier. Je te dis qu'il faut. C'est Lyon.
Mais si, s'il sort à la mi-temps, c'est un problème. S'il sort à la 60e, c'est un manque de respect.
Moins que s'il joue pas du tout.
Oh, mais ça... Viens, on parle du match ce soir. C'est un très beau match du Paris Saint-Germain. Arrêtons.
Excusez-moi d'apporter un petit bémol à votre ode à Luis Enrique.
Comment tu veux
Daniel revient demain.
Comment tu
veux. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit régalez-vous ce soir. Demain, je déglingue tout.
Comment tu veux analyser ce match et cette semaine autrement que sous le prisme, effectivement, d'une gestion réussie de l'effectif. Après, moi, je veux bien qu'on nous dise « Ah oui, mais en fait, il y aurait eu 8-1 contre le Barça s'il avait géré différemment. Ils auraient mis 7 buts à Lyon. » Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai vu que cette équipe, qui est moyenne par moment et sur certains secteurs de jeu depuis le début de la saison, je parle au très, très haut niveau, arrive à s'en sortir. Ah oui, mais c'est que la Real Sociedad. Ah ouais, bah, bidon, ils ont battu deux fois la Real. Après, ah oui, mais ils jouaient 11 contre 10. D'accord, ça compte pas. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut arrêter.
Non, mais c'est que Lyon. Lyon, sur la deuxième partie de saison, ils sont 3e de Ligue 1. Ils leur infligent 4 buts en 25 minutes. En fait, selon Gilbert, on devrait arriver en plateau. Et dans une semaine où le Paris Saint-Germain de Luis Enrique met 8 buts au Barça et à Lyon, il faudrait dire oh, mais on n'a pas vu Mbappé ce soir. Oh, mais on est déçu. Oh, on va le voir que dans 2 jours contre Lorient.
Tu dis le meilleur joueur du monde, tu préfères qu'il soit sur le banc.
Mais le meilleur joueur du monde, je le vois depuis 7 ans. Et le meilleur joueur du monde, moi je veux le voir dans les gros matchs, le meilleur joueur du monde.
Et à
100%. Et avec une bonne attitude.
Bah là, il n'est pas à 100%. Là.
Bah, il sera à 100% s'il est préservé. S'il joue tous les matchs 90 minutes, encore une fois, je ne vois, vois pas l'intérêt. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça.
Comment ça, personne? Mais je...
Ronaldo l'a fait avec Zidane. Zidane l'a fait avec Ronaldo par exemple. Il y a une gestion.
Sors-moi les stats de Vinicius, de Harry Kane, de Haaland,
Ronaldo avec Zidane.
On va voir combien de fois il a démarré sur le banc
Tu penses que le grand Real de Zidane, quand il faisait les doublés, il faisait pas jouer les remplaçants sur les matchs de Liga entre les quarts de finale et les demi-finales?
Le Zidane, il avait Cristiano Ronaldo en fin de course, avec qui il avait passé un deal.
Jamais de la vie. Ah bah j'aimerais bien l'avoir, le Ronaldo en fin de course, qui te fait gagner des Ligues des Champions alors. Hein. J'aimerais
Farid
bien
est là, bon, salut Farid.
PSG. Ouais messieurs, bonsoir.
Ça va?
Salut Farid.
Ah Gilbert, bon bah c'est bien. Ce soir on n'a pas ticket-tac, donc on va pouvoir peut-être s'exprimer, hein, Gilbert. Hein. Entre Daniel et Stéphane, là, ça va nous faire du bien, surtout que là... Entre Walid et Flo, mon Dieu que ça fait du bien d'entendre une autre façon d'approche du PSG qui est quand même un peu plus réaliste que par rapport aux précédents commentaires.
Il faut tout pour chacun.
Chacun développe ses avis.
Il faut respecter les avis de chacun.
Je l'entends, mais c'est souvent les mêmes que vous prenez. Et puis qu'effectivement, bah, moi je rejoins Walid et Flo. Bah oui, t'as plusieurs matchs. Il peut être sur le banc. Ouais. Écoute, c'est encore un sport collectif. Et ce que nous montre justement Géo Trouve Tout, comme vous l'appelez depuis le début de saison, bah c'est que ça joue. C'est un groupe, c'est un collectif. Et si tu regardes bien par rapport peut-être aux années précédentes, c'est pas tout pour Kiki. Donc c'est tout le monde qui est concerné, tout le monde joue. Et oui, on devrait être tout aussi choqué de voir Dembélé sur le banc, qui pour moi a fait une performance même bien supérieure à Mbappé à Barcelone.
Et puis en plus, donc, c'est bizarre Farid, mais on nous a dit que sans Mbappé ils peuvent pas gagner de match.
Bah oui, de toute manière.
Mais ça c'est aussi, c'est bizarre ça. C'est-à-dire que si je devais être malhonnête comme certains, je pourrais dire que les trois meilleurs matchs de la saison en Ligue 1, c'est Lille, c'est Marseille et c'est Lyon. Et il y a un point commun.
Mais
je vais pas le faire, je suis pas malhonnête. Voilà. Mais si je pouvais faire comme certains dans l'autre sens pour Luis Enrique, je le ferais.
Moi, il y a aussi à Dortmund et Barcelone à Barcelone.
Gilbert Walid, moi ce que je reproche.
Mais
je suis
pas non mais apparemment on peut pas jouer sans lui. Ouais, c'est...
Non mais ce que
il doit tout à Mbappé, Luis Enrique. Il a pas gagné de Ligue des Champions en 2015.
On te dit pas ça. Walid. On te dit que le foot c'est faire jouer les grands joueurs, avoir du spectacle.
Mais il le fait jouer tout le temps.
Ils t'ont pas fait rêver là.
Barcola, c'est le PSG.
Mais non mais il préfère Cantilli à Mbappé.
Il a pas joué. Il était pas là ce soir. T'as pas plu la première période ce soir.
Vitinha, t'as pas aimé. À toi, à moi.
T'as pas aimé la première mi-temps.
Mais bien sûr, ce soir, ils se sont baladés. Ils se sont baladés par sa personne, en plus.
Ah bon? Bah, c'est long, quand même.
Messieurs.
Ouais, Farid.
Ouais, Gilbert, merci. Remplacez pas Daniel, remplacez pas Tiketak, les deux. Hein. Je suis archi d'accord avec vous. Donc, soyez sympas, effectivement. Moi, depuis le début, et depuis un petit moment, ça critique à fond la caisse le coach. Je trouve que c'est super bien géré. Écoute, moi, je trouve qu'on joue vraiment en équipe et tout le monde est concerné. Et t'as beau changer ce que tu veux. Mais bien entendu, de toute manière, effectivement, on a gagné à Barcelone parce qu'ils étaient à 10. Effectivement, ce soir, Lyon était peut-être pas encore dans son match. Mais est-ce qu'on y est peut-être un petit peu pour quelque chose dans nos victoires parfois? Donc, si tu regardes bien et si tu fais un bilan de façon globale, en étant pragmatique et factuel, il explose tout. L'année dernière, à cette époque-là, on galérait pour être champion de France. On est éliminé en Coupe de France depuis un bon moment et on passait pas les huitièmes. Donc je pense, et en plus, on avait quand même Messi, Neymar, Mbappé et on jouait tout pour eux. Et là, moi, franchement, en tant que supporter du PSG et non en tant que footix, ben, je vois une équipe, je vois des joueurs et je vois tout le monde est derrière. Et comme par hasard, il n'y a pas d'embrouille avec les supporters. Et puis si tu vois les banderoles qu'il y a dans les tribunes, tout le monde se sent concerné par ce qui se passe aujourd'hui au club. Donc je pense qu'il faut quand même aussi le montrer du doigt. Hein. Je sais pas.
Ah ça, on les a vus ce soir. Les ultras du PSG, c'est les ultras les plus contents de la terre. Et d'habitude, les banderoles, c'est plutôt les pour contester. Là, bien c'est sûr, les banderoles mais féliciter.
Qu'est-ce que tu veux ? Faut pas oublier encore une fois, c'est qu'on est une équipe en reconstruction. Hein, parce que ça, on l'oublie. On croit qu'on a déjà 2-3 saisons. Et je trouve qu'aujourd'hui, ben, c'est à l'image de ce que je pense que les supporters du PSG ont cherché tous. Et enfin, on l'a, c'est mis en place. Et si tu regardes notre match à Barcelone, on n'a pas joué tout pour Kiki. Hein. Le feu, il est venu de Dembélé, il est venu de Barcola. Donc ça veut dire qu'effectivement, Walid, t'as raison, on peut gagner sans Mbappé. Mais encore une fois, j'adore Mbappé. Hein. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Mbappé, vous avez précisé qu'il avait dit du fou au PSG. Écoute, les deux matchs de l'équipe de France, il n'a pas été meilleur que ce qu'il produit au PSG aussi.
Non, mais, donc, mais attends, même sans parler de ça, moi je vais revenir à un truc beaucoup plus factuel et sans polémique, c'est de la gestion d'effectifs. Pour essayer d'aller au bout en Ligue des Champions, puisque et gagner la finale de la Coupe de France, parce qu'il y a quand même ça aussi, considérant que la Ligue 1, c'est fait. La gestion d'effectifs pour éviter une blessure, pour être au top, pour être au max. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Là, je sors du débat plus global qu'on a pu avoir et qui était intéressant, qui suivait sa décision de partir du PSG. Effectivement, on pouvait s'étonner du timing, de la façon dont c'était fait. On a déjà débattu mille fois.
Moi, je m'étonne que ce soit politique, parce que finalement, il gère Mbappé différemment depuis qu'il l'a annoncé.
Oui, mais d'accord, mais moi, j'ai répondu à ça.
Ça fait partie
j'ai répondu
du jeu
à ça dix fois, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement,
football,
dans la première partie, les dirigeants lui ont dit oui, effectivement, tant qu'on ne sait pas s'il reste ou pas, on gère différemment. Quand tu es un N-1 par rapport à ton N+1, oui, effectivement, il a peut-être fait cette concession-là en disant, si ça ne me pète pas, moi, toute l'histoire du groupe, j'y vais comme ça. Et qu'après, effectivement, il a eu les mains plus libres. Mais la gestion d'un grand coach, m'étonne vraiment que pour une fois que vous avez au moins la gestion, après, on peut la critiquer, il a fait de mauvais choix. Il a fait un match catastrophique, Luis Enrique à Newcastle. Il n'a pas fait son coaching nécessaire pendant le match. Il a été mauvais dans la com derrière. Par exemple, celui-là, c'était pas bon. Donc, mais je m'étonne que pour une fois, qu'on a un mec qui prend ses responsabilités en tout cas, en challengeant Marquinhos par exemple en le mettant sur le banc, en remettant Vitinha en 6 alors que lui était quasiment privé de tir par les mecs du milieu quand il y avait Neymar et Messi, il a remis, on va dire, un peu l'église au centre du village dans la gestion de l'effectif et on lui trouve on est capable de lui faire les pires reproches. Moi je veux dire, critiquons-le sur ce sur quoi il est critiquable. Sa première compo, effectivement, tu sais, du match aller contre le Barça, on peut la critiquer. Son match à Newcastle, on peut le critiquer, mais ça n'empêche que globalement le mec a une idée, qu'il a impliqué tout le monde dedans et qu'il est capable, avec une rotation et en laissant effectivement le meilleur joueur sur le banc, d'aller mettre 4-1 à Lyon. Mais on trouve encore que ça va pas, parce que pour la bande de maillots, tous les
footix
qui veulent voir et qui veulent aller au parc.
Moi, j'ai metté un truc, c'est Mbappé.
Tiens, je me suis renseigné là, j'ai regardé un petit peu en 2018. Sacre du Real Madrid.
T'as dû remonter jusqu'en 2018
Oui, bah Ronaldo Zidane. Le match qui précède le quart
Ronaldo,
de finale.
Je me souviens très bien des débats à l'époque.
En 2018, le match qui précède la Juventus, il est sur le banc contre Las Palmas. Le match qui suit derrière contre Malaga,
tu serais mec à l'époque, il y avait un deal.
Il est remplaçant. Pourquoi il pourrait pas avoir de deal, nous, du PSG?
T'as un gars qui est dans la force de l'âge, là.
Et Ronaldo, il avait quel âge à l'époque?
Vas-y, il avait quel âge?
En 2018, il devait avoir. Il devait avoir 32 ans.
Oui.
Et alors, il gagnait des Ligues des Champions à cette époque-là.
À 30 ans, t'es mort.
Ah, t'es mort, en fait.
Il avait passé son prime, il était sur la pente descendante, et il avait un deal avec Zidane.
Il gagne une Ligue des Champions.
Mais Fred Hermel va te le redire tout à l'heure.
Oui.
Bon, je remercie Farid au 32-16.
Gilbert, bonne soirée, messieurs. En tout cas, Gilbert, t'es trop avec Tiki-Tac, ils ont vraiment une influence sur toi. Bon. On t'aime beaucoup, Gilbert. Moi,
c'est toc, c'est toc. C'est tic-tac-tac.
Paris, moi, je te rassure. Hein. Moi, je souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions avec Luis Enrique. Hein. Et qu'il batte le Real.
Mais à tous ceux qui
avec un doublé d'Mbappé.
Mais à tous ceux qui détestent Luis Enrique.
À tous ceux qui détestent
Luis Enrique, il faut rappeler que Luis Enrique peut perdre contre Dortmund. Donc, pour ceux-là, ils ont encore un petit espoir.
Ah oui.
Tu vois, et ça peut, parce qu'un match de foot contre une équipe, tu vois, même quand tu domines comme Manchester City, tu peux perdre contre le Real.
Ah, Flo, ça a été une semaine compliquée pour eux. Mais ça peut encore arriver.
Dans un instant, les retours, on aura Denis au 32-16 qui va intervenir. On fera l'évaluation du match. On reparlera de la position de Vitinha. Parce que là, Walid s'extasie sur Vitinha en 6, mais au match aller contre le Barça, tout le monde râlait et on voulait voir le plus haut. Donc,
pas moi.
Voilà, faut se mettre d'accord. On va essayer de le faire dans quelques instants.
Vous voulez juste voir Renzaï Remri à la place de Lille, c'est tout.
Et puis, Lyon au programme également dans quelques instants, sans oublier Monaco et l'OM, bien sûr. À tout de suite, on est là jusqu'à midi.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h21, Flo Gautreau et là Walid Acharchour également. Avant de parler de Lyon, on va conclure sur Paris avec Denis au 32-16. Bonsoir Denis.
Bonsoir Gilbert.
Salut Denis, ça va ?
Salut les gars. Bon, bah déjà, je voudrais d'abord te féliciter Gilbert, parce que en fait, moi je suis l'after, bon, je viens d'assez loin, je suis parti à l'étranger avec mon boulot depuis très longtemps. Mm-hmm. J'y vais en Asie, en Malaisie. Et je suis rentré.
Kuala Lumpur ?
Oui, exactement. J'ai vécu 8 ans à Kuala Lumpur. Oui. Oui, tu connais ?
Ouais. Petronas Tower, bien sûr. Je connais l'espace VIP de Malaysian Airlines à Kuala Lumpur. C'est tout. Je suis pas sorti.
Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est une ville magnifique. Les gens connaissent peu, mais c'est très agréable à vivre. Voilà, et je suis rentré.
Qualité de restaurant de très haut niveau.
Oui, et il y a même des restaurants français très très branchés, hein, qui s'appelle Nathalie, qui est un gastronomique français d'ailleurs, c'est pour ceux qui y vont un jour. Enfin voilà.
Bon, après, si on va à Kuala Lumpur, pardon, allez manger autre chose que du français si vous venez de France.
Non, mais bien sûr. Bon, après, il faut aimer l'épicé quand même. Hein,
ouais. Bon, revenons à Paris.
Oui, revenons
et
à Paris.
Et c'est pas facile, on rappelle, de manger épicé en même temps.
Ouais, c'est ça. Non, en fait, vous avez un peu dit tout ce que je voulais dire, notamment Farid, juste avant. Je voulais intervenir, oui, sur Barcola, Enrique et Mbappé. Alors moi, en fait, je suis très, très optimiste en l'avenir du club, parce que sans Mbappé, encore ce soir, on peut voir qu'il a fait la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu avant le match.
Non, j'ai pas vu.
Il est arrivé après
tout. Il a eu quelques secondes après le début. Bon, oui. Oh. Qu'il fasse ta gueule, ça c'est logique. Ouais, hein, non, trouve pas.
Il va pas être content.
Mais... Ouais, non, mais tu vois, je trouve que.
Vous défendez Mbappé maintenant.
Projet. C'est pas le projet. C'est toujours tout pour lui, je trouve. Alors moi, je soutiens. D'ailleurs, ça me surprend beaucoup, Gilbert, parce que je trouve que tu te riolises trop à son contact. D'ailleurs, vous l'avez dit, je crois, juste avant.
Ah bon ?
Alors que je t'adore. Oui, Gilbert, tu es.
Non, mais moi, j'ai donné mon point de vue sur Mbappé. Je partage pas tous les avis de Daniel non plus sur Luis Enrique. Mais là,
mais on est d'accord.
C'est ce que c'est. Que 18 ans de vie commune, c'est ce que c'est. Hein.
Oui. Bah, c'est ça, voilà.
On déteint l'un sur l'autre.
C'est pour ça que je trouve que vous êtes
c'est pour ça que j'ai fait des allers-retours un petit peu, parce que je suis sorti de la maison un petit peu.
Ah, merci Flo, oui, parce que je vois que tu défends le bout de gras depuis un petit moment là.
Mais parlons surtout de Barcola, parce que Barcola, il fait encore une première mi-temps incroyable. Alors,
incroyable.
Les célébrations sur le parquage lyonnais, il aurait pu s'en passer quand même, parce que Lyon lui a donné beaucoup. Mais
il s'est bien fait insulter aussi au match.
Oui,
aller, rappelle-toi.
D'accord, ok, très bien. Oh. Moi, je pense qu'il doit être au-dessus de ça. Et pourtant, j'aime beaucoup Barcola. Mais la première mi-temps qu'il a fait,
très bien fait.
La première mi-temps qu'il fait, elle est incroyable. Sincèrement,
ah, oui.
Il prend le jeu à son compte. Il dézone. Il fait des énormes différences. Moi, quand j'entends que c'est juste de la percussion ou que c'est juste un tout droit, c'est un joueur qui face au bloc bas est un joueur qui est déstabilisant. Même sur corner, c'est lui qui sur le but de Beraldo prolonge le ballon. On parle du Paris Saint-Germain, mais même avec l'équipe de France. Aujourd'hui, Barcola prétend à l'équipe de France. Et je suis persuadé que Barcola va aller à l'Euro. Avec la blessure de Kingsley Coman, notamment, il y a un énorme spot. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite.
Oui, c'est vrai que ce serait assez logique.
Il est dans une grande forme et c'est le grand gagnant de la semaine. Moi, je le signe tous les jours.
Ouais.
Il est dans les 23, Walid, il est dans les 23 dans un mois et demi.
Walid, tu dis tout ce que je voulais dire, Walid. Non. Non, mais en fait, oui, je trouvais que Barcola, tu parles de Barcola, c'est exactement ça. Je trouve qu'il a des dribbles chaloupés, sa technique en mouvement, elle est extraordinaire. Dès qu'il peut faire la passe, le gars, il l'a fait. Enfin, je veux dire, il est toujours altruiste. Je trouve que Enrique, il a construit son projet, comme tu le disais, Flo, un peu plus tôt dans l'émission. Je trouve qu'il a construit son projet, mais sur l'année, comme par hasard, il n'y a pas de blessés, alors que depuis des années, on avait toujours plein de blessés. Là, il n'y a plus de blessés, il a fait tourner les mecs. Moi, le match, la première mi-temps de ce soir, ça me rappelle un peu le match de Lille. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, je me rappelle. Avec déjà un gros turnover.
Et puis, collectivement, c'était super, super agréable à voir, je trouvais. Et je trouve que ce soir, ça m'a un peu rappelé ce match-là.
En fait, c'est vrai que ce match est intéressant collectivement. T'as raison, dans les mouvements. C'est-à-dire qu'on a vu par moments des séquences où les Lyonnais, Matic compris au milieu, ils ont pris un bouillon, Matic Cacré dans la première période. C'était assez étonnant. Et après, pour revenir sur Barcola, sur un point, puisque t'as dit à peu près tout sur ce qui était offensif, moi, il y a un point majeur. C'est, tu vois, par exemple, Gift Orban qui donne pas à Cherki, tu vois, pour moi, c'est ça. T'as raison, Barcola, c'est pas seulement l'élimination pour lui, c'est si je dois passer, je passe, si je dois tirer, je tire. Sauf une fois, peut-être qu'il
est. Un sport de copain, il est dans le partage.
Après, le point, c'est qu'il défend aussi. On l'avait vu déjà dans le match contre le Barça, alors ça a l'air évident, c'est même tout le monde doit faire ça maintenant, mais lui, il le fait vraiment, c'est à des très très grosses courses. Donc, je pense aussi que tout ça permet de mieux comprendre le fait qu'il soit, enfin, lui titulaire plutôt à gauche parce qu'il a besoin de ça, et Luis Enrique sur ce côté-là. Donc, effectivement, il fait un très très bon match.
Et c'est pas encore un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui progresse. Je rappelle Gilbert que l'année dernière, en janvier, donc on n'est pas très très loin, il y a plus d'un an, il devait aller à Saint-Gall en prêt parce que c'était Toko Ekambi le titulaire à Lyon. C'est un très très jeune joueur qui progresse à grands pas et qui, au contact de Luis Enrique, me plaît totalement. Oui. Après, est-ce que c'est un crack? Est-ce qu'il sera Ballon d'Or? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que dans son profil aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il est trop important parce que, comme vient de le dire Flo, sans ballon, et il court énormément. C'est lui qui fait des appels. Voilà. Et puis surtout, avec, il fait des différences. Et quand on voit la double confrontation contre le Barça, il change quand même pas mal de choses à la mi-temps, à l'aller. Et c'est lui qui va provoquer, qui fait la passe D pour Dembélé, qui va provoquer le carton rouge. Donc c'est quand même assez fiable ce qu'il réalise avec le PSG.
Et dans la série, juste pour terminer sur le côté, justement, on va dire mécano de Luis Enrique, à quoi ça sert, puisque c'était une des questions, à quoi ça sert de faire tous ces changements? Ben, évidemment, tu as Mbappé possiblement dans l'axe et Barcola à gauche et Dembélé à droite, tel qu'on l'a vu, on va dire, dans une équipe type. Mais tu as potentiellement, si Mbappé doit être décalé à gauche et retrouver son poste entre guillemets préférentiel, un Ramos qui peut aller jouer neuf.
Soit dans un morceau de match,
soit dans un choix pour déstabiliser l'adversaire. Puisque pour répondre à cette question qui a été souvent posée, il n'y a pas seulement parce que Barcola court et que Mbappé défend pas assez, t'as aussi effectivement parce que, et c'était pas du flanc, tu peux utiliser ces différentes choses-là. Au passage, l'un marque des points à Ramos, l'autre Colomoni continue d'en perdre, dans la balance globale.
Parce que Ramos, sa saison, quand on met en perspective son histoire de maladie qu'il a eu notamment fin décembre, le peu de minutes qu'il a eu aussi, c'est quand même assez satisfaisant. Il montre des choses très intéressantes pour l'année prochaine, et je trouve, globalement, moi je défends souvent Luis Enrique, mais qu'il pourrait être encore plus utilisé, que ce soit même au poste de titulaire, mais surtout aussi en sortie de banc. Je pense que son profil peut être très très intéressant sur la fin de saison et notamment en Ligue des Champions. Bon, moi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait aujourd'hui.
Vous préférez Vitinha en 6 plutôt qu'en 8, donc?
Ah oui, moi, face au jeu. Ah ouais, aujourd'hui, dans l'effectif actuel.
C'est l'une des idées de Luis Enrique, enfin, une des trouvailles, entre guillemets, pour le permettre de Spenwer. Mais en dehors de ça, c'est que le gars est totalement en confiance, c'est-à-dire que il était bridé l'an dernier. Là, ce qu'il fait, c'est lui le quarterback. Donc c'est vrai que il lance, il récupère, mais on sait qu'il s'est aussi frappé et marqué. Donc c'est un des joueurs clés, mais ça pour le coup, il n'y avait pas de débat là-dessus. C'était juste effectivement peut-être le positionnement qu'il y avait à revoir. Mais non, il fait encore un très gros match.
Je me bats souvent en off ou même pendant les émissions avec Daniel sur son positionnement, parce que lui, il pense que c'est Ugarte qui doit jouer numéro 6 et Vitinha. Quand on voit les matchs d'Ugarte sous pression depuis le début de saison, le changement Vitinha a été très très important et impactant dans l'élaboration du jeu, et on le voit encore en première mi-temps. À chaque fois qu'il est pressé, il a ses petites explosivité, cette qualité technique pour faire la différence, comme sur le quatrième but. Et comme vient de le dire Flo, il est tout terrain. Et même, il peut se projeter parce qu'il y a Warren Zaïre-Emery qui est un peu moins bien en ce moment, qui est capable de le couvrir sur certaines transitions. Après, si demain tu vas me chercher Bruno Guimaraes l'année prochaine, oui, tu vas me le remettre en numéro 8. Mais en l'état actuel, avec l'effectif qu'il y a, il doit jouer numéro 6 face au jeu. Hein.
Si vraiment on doit trouver des choses, il faut les trouver, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, cette équipe imparfaite, elle l'est toujours un peu forcément encore, c'est derrière. C'est que si tu regardes bien, je reviens sur Berardo parce qu'il a marqué, certes, mais derrière, défensivement, vraiment un contre un d'ailleurs, finalement, parce que c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui peut voir les choses. Mais en revanche, un contre un, il n'y a pas d'occasion de but, ça se transforme en occasion de but parce qu'il se fait assez facilement éliminer. Donc il reste cette question-là.
Après, avec le retour de Lucas Hernandez Marquinhos,
ouais, il a trouvé sans doute la solution, ouais, ouais. Mais en tout cas, faut le savoir. Et puis, puis voilà. Après, je répète que même dans la gestion collective de la défense, il y a encore des choses parfois un peu étonnantes.
Donc, allez les gars,
donc, Lyon, il y a quand même des bémols à apporter.
Lyon dans un instant au programme. Je remercie Denis au 32-16 et ensuite Marseille qui fait 2-2 à Toulouse avant d'accueillir Fenerbahçe. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h33, la Ligue 1 au programme ce soir. On a une belle semaine encore hein, avec 3 matchs de Ligue 1 mercredi. Et vous le savez, demain, Drôle de Dame de 20h à 22h, le foot européen, l'after de 22h à minuit. Également mardi, 22h minuit dans l'after, avec pas mal de thématiques sympas. On aura Sébastien Bassong tiens, avec nous mardi. L'excellent Sébastien Bassong qui sera là avec nous. Il a lancé un podcast et puis bon, il fera le débat avec nous, quoi. Voilà. Expertise, foot anglais, connaissance de la Ligue 1.
On l'a déjà eu dans l'after.
Bien sûr.
Oui, dans ta cité.
Ouais. Ah oui, quand j'étais là-bas, Argenteuil, c'était effectivement.
Pierre Sage est en conférence de presse. On est plutôt sur la fin de la conférence là. Mais ils étaient où les Lyonnais en fait, ce soir? Ils étaient dans le métaverse. Ils étaient.
C'est vrai, je l'ai dit. Globalement, le.
Assez bon, après, étonnant. Hein.
Je pense que t'es rattrapé aussi par le niveau et la pression de. Du PSG, mais j'ai pas tout compris moi dans le plan de départ de Pierre Sage. Pierre Sage qui a fait un super interview dans l'équipe, je le recommande. Et vous connaissez, ce que je pense de Pierre Sage. Mais là, ce soir, j'ai pas tout compris parce que on a bien vu que quand il a rectifié en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Même si attention, la première mi-temps, il y a quand même des actions pour l'Olympique Lyonnais où ils ont manqué d'efficacité. Mais le problème, c'est que défensivement, t'as trop été catastrophique et puis au milieu de terrain, claquer Matic comme ça, ça a été trop rédhibitoire face à la prestation du Paris Saint-Germain. Et autant en fait, on réclamait avec Flo parce que je me rappelle, on avait fait Nantes PSG, Nantes Lyon ensemble. On réclamait un 4-2-3-1 avec un joueur un peu plus offensif dans l'axe, que ce soit Cherki ou Malik Fofana. Ou un deuxième attaquant avec la casette qui tourne autour, face au bloc bas, face aux équipes qui attendaient un peu plus l'Olympique Lyonnais pour avoir un peu plus de maîtrise, un peu plus de créativité. Et là, en fait, s'il y avait un match où fallait jouer à 5 derrière ou à 3 au milieu de terrain en rajoutant un Mangala ou un Tolisso, plus un Mangala, parce que je pense que dans ce rôle de l'ombre, dans ce rôle du sale boulot, il aurait fait beaucoup de bien pour essayer d'aller harceler un Vitinha, harceler un Warren Zaïre-Emery. Il a fait un 4-2-3-1. Et le problème, c'est qu'on a eu une équipe un peu coupée en deux et qui a été en grande difficulté. Sur la première mi-temps, ça fait 4, mais à un moment donné, ça peut faire beaucoup plus.
Je vais bétonner un peu plus.
Non, pas forcément bétonner, mais essayer d'être dans une équipe un peu plus fiable, un peu plus cohérente par rapport aux qualités du PSG. Et sur ça, et par contre, en deuxième mi-temps, quand il a rectifié sur la largeur, notamment avec cette défense à 5, ça a été beaucoup mieux. Après, peut-être que c'est aussi dû au PSG qui est un petit peu relâché en termes d'intensité.
Moi, je pense qu'il y a, pour le coup, son premier petit péché d'orgueil, un peu de la confiance, perçage, un petit péché d'orgueil pas méchant et intéressant pour nous, parce que si le PSG a fait ce match-là, je pense que c'est parce que Lyon s'est jeté dans la gueule du loup et y est allé. Tu regardes le début de match, c'est très intéressant. Je trouve que les intentions sont excellentes, ils sont immédiatement dans le camp de Paris.
Oui, mais il y a un demi pressing, faut. Oui, tu vois,
mais,
c'est un peu.
Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que avant d'évoquer tous les détails tactiques, je pense que dans les intentions, ils se sont dit. On va y aller, ils ont joué leur match de Coupe d'Europe, on va aller les chercher, on va aller leur faire mal, et bim, ils se sont fait doucher immédiatement. Ils ont pris 2 buts en 6 minutes.
Après,
et là, c'était rideau.
Et là,
derrière, le jeu collectif parisien, et y compris en transition, parce que forcément, si tu t'exposes autant, en fait, l'histoire de Luis Enrique cette saison, c'est quand même ça. C'est, je veux de la possession parce que c'est ma culture. Mais évidemment, je refuse pas la transition, pas fou avec les joueurs que j'ai. Et si tu t'aventures à vouloir un peu trop jouer et aller dans la gueule du loup, ok, bam, on te punit derrière. Donc c'est aussi cette double culture, la sienne qui veut quand même imposer quand contre le Barça, ils reprennent le pied sur le ballon à un moment donné en disant attendez, c'est quand même nous qui devons avoir le ballon, on est à 11 contre 10. Et puis la transition quand il le faut ou quand des fois tu y es contraint. Bah là, Pierre Sage, effectivement, il s'est fait manger un peu facilement en ayant des intentions qui font que quand même. Faut pas oublier où t'es, qui est Lyon cette année, qui fait une très belle deuxième partie de saison, mais qui n'a pas le niveau, sans doute, pour aller faire ça.
Moi, je l'ai senti plus, ce que t'es en train de dire, j'ai senti plus à 3-0, où il y a le 3-1 de Nouama, et notamment le poteau de Nouama juste après. Mmh. Où là, tu sens que, oui, t'es mieux, t'as un mini temps faible du Paris Saint-Germain et tu joues au football. Ce que tu évoques, en fait, moi, j'ai pas pu le ressentir parce qu'il y a les deux buts qui arrivent très rapidement, en fait. C'est deuxième et sixième minute. C'est trop rapide, en fait, pour sentir les véritables intentions de Lyon. Mais peut-être que t'as raison, hein.
S'il fait cette compo et si tu as ces premières minutes-là, c'est parce que tu as envie d'aller faire quelque chose. C'est un projet, en fait, super ambitieux. Donc, moi, je ne le critique pas.
Non, mais
parce que, quitte à aller jouer au Paris Saint-Germain, qui a la bonne idée? Parce que même ton idée, là, qu'il a mise en place en deuxième période, est-ce qu'elle aurait fonctionné?
Est-ce que tu sens, voilà. Après, tu es rattrapé par le niveau du PSG.
Bien sûr, exactement. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'OL reste une équipe, et c'est normal, bien plus faible que le PSG cette année, et que y aller avec ce schéma de jeu-là, c'est remarquable au sens premier du terme, mais c'est un peu suicidaire.
Après, ce qui fait tâche, c'est que ce soir, tu prends une correction. Sans Mbappé, sans Dembélé, sans Nuno Mendes, sans Lucas Hernandez, et que, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton premier point, psychologiquement, t'as une finale de Coupe de France qui arrive. Maintenant, Pierre Sage ou pas Pierre Sage, quand le PSG est à ce niveau-là, contre toutes les équipes de Ligue 1, t'es en grande difficulté. Et on l'avait expliqué aussi avec l'Olympique Lyonnais, c'est que t'as souvent été dans la réaction, t'es dans la réaction contre Brest. Alors que t'es en grande difficulté, Brest est meilleur, et ça paye. T'es dans la réaction contre Nantes, t'es dans la réaction contre Metz, t'es dans la réaction contre beaucoup d'équipes. Après, attention! Les changements de Pierre Sage à chaque fois étaient pertinents, les entrants ont fait des belles choses, mais malheureusement quand tu arrives contre le PSG et que tu joues de cette manière, bah ouais, ça peut faire crack.
1-4 à la mi-temps.
Vrai, quand on regarde ça peut faire crack. Ils sortaient de 6 matchs sans défaite là. Donc 5 victoires, 1 nul. Et c'est vrai que quand tu regardes les adversaires à part Brest la semaine dernière, c'était pas non plus des cracks.
Oui, mais fallait gagner. Faut voir, faut pas être gourmand, Gilbert. Faut qu'on se rappelle d'où vient l'Olympique Lyonnais quand même. Donc les matchs contre Nantes, les matchs contre Metz, les matchs
Valenciennes, Reims, Toulouse,
Montpellier, Toulouse. Toulouse, aller à Toulouse en ce moment, c'est pas facile. Hein.
J'avais gagné là-bas 3-2.
Mais ça a été souvent avec des réactions. T'es mené 2-1 contre Toulouse, tu gagnes 3-2. T'es mené 1-0 la première heure de jeu contre Nantes, elle est horrible. Mais
Monaco et Lille qui arrivent pour nous. Donc c'est intéressant effectivement par rapport à ce que tu dis au moins, c'est que là c'est trois matchs, Paris, Monaco, Lille. À voir, parce que là tu as des équipes justement en face, que ce soit Paris, Monaco, Lille, qui sont en pleine confiance, qui jouent bien en ce moment, qui proposent des trucs.
Le baromètre, c'est Matic. Hein. Quand Matic n'est pas bon.
J'ai l'impression qu'il tient jamais non plus un match entier.
Il a bien terminé sur les derniers matchs, mais c'est vrai qu'il a c'est un peu les montagnes russes. Cacré a été en grande difficulté et il a notamment une grosse occasion.
Pour une fois qu'il est titulaire.
Il a essayé tant bien que mal, mais
beaucoup de ballons.
Il a pas beaucoup été servi. Lacazette aussi un peu ronchon dans le jeu.
Lacazette physiquement, Flo, au bout de 10 minutes.
Et même cette année, Flo, moi je suis un grand fan de Lacazette, mais autant en niveau finition, il est toujours là et il est très important pour l'Olympique Lyonnais. Autant le Lacazette que j'aimais moi, Lyon premier passage et Arsenal où dans le petit jeu, le numéro 9 qui vient sur le numéro 6 et qui va presser, qui va jouer, qui va faire jouer, qui va lancer l'ailier, c'est terminé. C'est-à-dire que techniquement, il est beaucoup moins disponible et beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de déchets.
Physique.
Ouais, aussi, je pense que c'est aussi physique.
Parce qu'il peut plus faire tous ces décrochages, tous ces efforts-là. Et là où il reste très fort, c'est bon, tout ce qui est geste d'attaquant et dans la surface. D'ailleurs, la frappe de Nouama est intéressante parce que je crois que c'est un des rares buts de l'OL hors surface parce que la plupart ont été marqués, y compris par Lacazette, dans la surface. Et c'est un signe aussi sur cette OL-là. Après, cette OL, il est assez intéressant parce que selon le schéma et selon l'adversaire, tu te vois parfois plus beau que tu n'es. C'est-à-dire que c'est une équipe, tu vois, moi je suis assez étonné quand même de voir que Fofana n'entre qu'à la 77e minute. Moi je trouve que c'est un des hommes forts de l'OL de la deuxième partie. Alors peut-être qu'il est meilleur en impact player, c'est peut-être l'idée de Sage. Ça c'est encore une chose possible parce que Nouama n'a pas été mauvais. Hein. Mais moi je trouve que ce joueur-là mérite plus de temps de jeu que ça.
J'espère que sur les prochaines semaines, il va remettre ce 4-2-3-1 qui, je pense, contre des équipes. Alors, tu l'as dit, ils vont jouer des grosses équipes, mais des équipes plus faibles que le PSG. Je pense que c'est le bon système. Après, il faut aussi dire que défensivement, ça a été une catastrophe sur la première mi-temps. Oui. Maitland Niles a été en grande difficulté face à Barcola.
Oui, mais la encore, charnière centrale. Et encore, t'as un mec très étonnant quand même que je voulais signaler.
Et pourtant, Maitland Niles est souvent bon.
T'as raison sur la charnière centrale, c'est compliqué.
Compliqué, mais je vais quand même faire un petit point positif sur un joueur.
Tu comprends pourquoi il était boxeur.
Enfin, O'Brien.
Non, mais après, ça résume pas tout ce qu'ils font.
Parce que O'Brien, t'as l'impression qu'il est pas bon, pas fort et tout. Il met des buts en vitesse et le tacle qu'il fait pour récupérer Colomwani en première période, c'est pas lui le pire. Oui. Effectivement, il faut juste se dire un truc très simple. Kalitacha, O'Brien, t'as cité les noms là.
Enrique.
Il faut juste te dire que cette équipe-là n'avait pas les moyens ce soir et n'a pas les moyens dans le championnat 2023-2024 d'aller dire on va au PSG conquérant avec un système ambitieux offensif pour aller leur faire mal. C'est une équipe qui est à sa place. Finalement, et je te dis, avec l'euphorie des résultats, l'euphorie de Pierre Sage qui, ça y est, a trouvé la solution, et c'est vrai que lui aussi a trouvé son groupe et a embarqué tout le monde, tu te vois un peu plus beau que tu es. Alors, tu as raison de te voir plus beau que tu es contre certaines équipes, mais quand tu vas au parc contre le PSG qui vient d'éliminer le Barça et avec son banc de touche XXL...
Après, on va pas lui reprocher ses ambitions.
Mais
c'est la réalité, c'est ce qu'on a vu sur la mi-temps. Ouais.
Dans un instant, Marseille au programme et Fred Hermel pour nous dire ce qui s'est passé entre le Real et le Barça. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h44, Moleda Chercheur et Florent Gautreau sont là. L'OM, les gars, qu'on avait quitté jeudi soir complètement rôti mais qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, s'est accroché à Toulouse.
Il est un peu rôti encore.
Sauf que moi, j'ai regardé, faisons une petite comparaison quand même.
C'est très bizarre.
Bon, moi, j'ai regardé évidemment avec attention Lille-Strasbourg. Les Lillois, ils ont démarré le match contre Strasbourg à 2000. Donc, je sais pas si les Lillois. Je sais pas ce qu'ils auront. Bon,
ils sont beaucoup plus frais, beaucoup plus fiables cette année que l'OM. L'OM, il termine tout sur les rotules. Le seul joueur qui a fait 90 minutes après les 120 contre Benfica, c'est Balerdi. Mais sinon, ils sont tous. Verretou, j'ai été surpris que Verretou et Aubameyang démarrent. Ils ont fait 60 minutes.
Correct pour Aubameyang.
Oui,
d'ailleurs.
Très correct. Même Verretou, même s'il était un peu diminué. Mais t'es obligé de. Tu termines encore avec Daou et Kondogbia, défenseur central. Mumbanya qui rentre, qui a mis un super but. Mumbanya,
ouais,
au passage.
C'est un peu, finalement, inespéré. Hein,
un match nul. Je pensais que ça allait être un partout, d'ailleurs, longtemps. Était inespéré, mais assez mérité parce qu'effectivement, ils ont fait plutôt, ils ont été plutôt bons.
En mi-temps, c'était pas mauvais.
C'était pas mal. Ouais. Et donc, je me suis dit aussi que la gestion, même physique, finalement, n'était pas si mal faite. C'est normal de voir sortir. Mais Aubameyang, il y avait Vertu. Sauf que quand tu sors ces deux tauliers-là, là, à un moment donné, c'est tu différent. Prends le bouillon. Alors, évidemment, ça se finit bien parce qu'il y a ce retourné de Mumbanya. Mais c'est incroyable. Cette équipe, déjà, on en a parlé l'autre jour après le match jeudi. C'est vrai que c'est pas logique et pas normal. Tu as raison de souligner que, quels que soient les états de fatigue, ils soient à ce point décimés, blessés, hors de forme sur la deuxième partie du match. Mais la deuxième chose, c'est que, malgré ça, avec l'esprit de corps, avec cette histoire qui est en train de se construire, avec ce banc de touche un peu de bric et de broc, d'aller chercher encore cette égalisation-là à la fin, tout ça dans l'histoire et dans la confiance là, qu'il y a, parce qu'on rappelle quand même qu'ils ont gagné quand même le match jeudi, ils font nul là, alors qu'ils restaient sur 5 défaites avant. Donc, il s'est passé un petit truc quand même.
Après, il y avait moyen de faire beaucoup mieux, je pense, Flo.
Tout ça,
c'était, pas, ouais, c'était pas trop mal, mais quand tu vois la prestation de Correa. Ce soir. Mais tu sais, j'ai bien moi Correa, c'est quand même un joueur qui a joué à Séville, qui a joué à l'Inter Milan,
international
argentin. Je me suis dit sur cette fin de saison, quand tu vois la gueule des matchs de NDI, qui est vraiment sur une dynamique négative, dans le rôle de deuxième attaquant là qui tourne autour d'Aubameyang, je me suis dit mais contre l'Atalanta là, t'as une demi-finale, il va peut-être avoir un rôle à jouer Correa. Je me suis mis devant ce match-là, je me suis dit titulaire. Ça va être intéressant de voir. Il en a rien n'affiche. Mais véritablement, c'est-à-dire qu'il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix. Mais mon pote, mais t'aimes plus le football en fait. Mais t'as une demi-finale contre l'Atalanta qui arrive là dans 10 jours.
Sa meilleure action, c'est le pénalty, la séance de tir au but contre Benfica.
Non mais c'est fou. Moi sincèrement, je me suis arraché le peu de cheveux qui me restait devant le match. J'ai dit mais comment c'est possible qu'un mec comme ça n'ait plus envie, n'ait pas envie. Et quand tu rajoutes à ça Jean Onana qui avec le ballon encore fait un match, alors il met un but hein, mais alors le match avec ballon, avec un pressing vraiment très très faible de la part de Toulouse, Il y avait quand même beaucoup mieux à faire, parce que sincèrement, tu rajoutes à ça la sortie de Paul Lopez à la 44e minute qui a été bon.
Même sur le deuxième but, le deuxième but de Toulouse.
Oh là là, c'est
Paul Lopez responsable.
Bon, Paul Lopez, on va rien dire, parce qu'il y a trois jours, il a été extraordinaire.
Là, il a fait un très mauvais match.
Mais là, très mauvais match. Ouais. C'est pas possible, même parce que Toulouse, ils m'ont pas, à part le petit Gbo qui est plutôt intéressant.
Non, c'est pas un très. Effectivement, moi j'attends la meilleure Toulouse. Je me suis.
Franchement, dit, j'étais un peu surpris. Moi, je voyais Toulouse
Je pensais qu'il mal, parce que franchement, physiquement, et vu que Toulouse jouait bien ces derniers temps, j'ai vu Toulouse à Rennes qui avait fait un très bon match.
Oui, le 2-1.
Donc je me suis dit, bah, vraiment, ils ont les moyens de battre cet OM-là. Et même Ounahi, il a encore été décevant. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvais espace. Ah si, moi j'ai trouvé que. Tu vois, dans ces matchs-là, justement.
Il est fautif sur le deuxième but, mais je n'ai pas trouvé si mauvais que ça par rapport à d'habitude.
Surtout des mauvais choix. C'est-à-dire que c'est ça qui me gêne. C'est que franchement, là, dans cette équipe-là, tu as dit Onana, avec les pieds, ça fait mal. Derrière, Paul Lopez n'a pas fait son match. Donc, tu as une équipe quand même très faible. Tu as Aubameyang qui est encore le meilleur et qui, a, sur 2-3 trucs, a failli
en
première mi-temps. Moi, ce qui me fait le plus mal, parce que globalement, c'est dans une bonne période. Donc, tant mieux pour l'OM. Ils s'en sortent, ils font 2-2. Ils ont gagné au tir au but. Enfin, ils se sont qualifiés au tir au but. Mais que cette équipe-là soit obligée de faire cette compo-là, enfin, que Gasset soit obligé de faire cette compo-là dans un match qui est important pour eux, parce qu'ils veulent chercher l'Europe, qui a un banc de touche limité à ce point pour un club du niveau de Marseille, honnêtement, c'est pas normal. Après, tant mieux, ils ont un état d'esprit irréprochable. Balerdi, c'est le nouveau boss. Mbagna rentre, il met un but incroyable. Ok. Mais Mbagna,
faut le mettre dans la surface de réparation. Parce que première touche, il peut te faire les trucs sur
premier. Pression sur le, aussi sur le défenseur.
Mais faut plus jamais le mettre sur le côté, comme ça a été le cas contre Benfica, parce que là on voit ces grosses lacunes.
Alors Mbagna, c'est très simple, mais vraiment, et surtout lui interdire de toucher la balle plus d'une fois. C'est-à-dire faut lui mettre le ballon sur
la balle. Une touche.
Je pense qu'il perd sur la première.
Non, il peut être intéressant sur la deuxième.
S'il y a une deuxième derrière,
il peut peser, sincèrement. Non, parce que le but qu'il met, il est beau le but.
C'est une touche.
Hein ? Oui, c'est une touche, c'est vrai. C'est une touche. Mais une, deux touches.
J'ai écouté Gasset sur les problèmes physiques.
On a deux problèmes. À l'aspect physique, on a les joueurs qui avaient joué les prolongations et qui étaient fatigués et ceux qui n'étaient pas inscrits sur la feuille pour l'Europa League qui ont un problème de rythme. On s'en va, on part à Benfica, on les laisse, ils peuvent pas jouer avec la CFA. Donc c'est pour ça qu'on a des sautes d'humeur et on fait des erreurs techniques à des moments incroyables.
Ouais, donc il y a les points dans les deux sens.
Les erreurs techniques, je suis désolé pour Jean-Luc Gasset, et il le sait, mais il le dira pas parce qu'il est sympa. Il y a une partie de ses joueurs, ça a rien à voir avec la fatigue.
Hein. Parce que Onana, il a pas joué depuis 3 semaines.
Mais Onana, Mbagna, je t'en citerai d'autres. Offensivement, même Ndiaye, c'est pas parce qu'ils sont fatigués qu'ils ratent leur contrôle.
Jonathan est là.
J'aime bien Mourinho. Mourinho, il est solide.
Très bon contre
Benfica. Le fils de José Mourinho.
Jonathan, bonsoir.
José Mourinho.
Oui, salut les gars. Salut Gilbert. Salut Flo. Salut Walid.
Ça va, bon, t'es d'accord avec ce qu'on a dit jusque-là?
Oui, absolument d'accord. Mais moi, je voulais rajouter une petite chose, les gars. C'est que pour moi, je pense que c'est une faute professionnelle à tous les niveaux. Je dirais même jusqu'à Longoria, Benassia, etc. Comment il est possible qu'on ait à peine au mois d'avril?
Alors, je veux bien qu'on Benassia, il faut l'enlever de ça parce qu'il est arrivé un peu tard quand même.
Ouais, il arrive en janvier.
Benassia, si tu veux, mais comment ça se fait que tu es à peine au mois d'avril? Ça me déconne. Je veux bien que tu aies 45 blessés. Rongier, Klos, Sarr,
Mbemba, Gigo,
Bamomaité. Mais comment c'est possible que tous les autres joueurs qui restent, ils n'aient rien dans les jambes? On dirait qu'on n'a pas fait préparation physique ni cet été ni cet hiver.
Bon, on l'a expliqué jeudi.
Je rappelle que Gattuso avait déjà des.
On l'a expliqué jeudi.
Quand il est arrivé.
Il y a eu deux prépas physiques différentes entre celle de Marcelino et celle de Gattuso, et il y a un staff médical qui est défaillant.
Voilà.
C'est simple.
Il se dit aussi que Marcelino, c'était prépa physique avec le ballon. C'était bon. C'était pas non plus hyper poussé.
J'ai pas ces infos là.
Pour préparer la machine, quoi, on va dire.
Et puis surtout,
les Espagnols, ça les empêche pas de gagner des coupes d'Europe.
Il y a eu le départ à la CAN de beaucoup de joueurs dans cet effectif-là, et les joueurs qui sont restés ont tiré sur la corde. Je pense à Aubameyang, je pense à Veretout, et ça commence à craquer. Hein, et Aubameyang,
encore faute professionnelle de Longoria. Comment tu fais pour pas anticiper que t'as une CAN et tu vas recruter des Africains dans tes mercato? Mais il y a un problème de cerveau quand même à ce niveau-là.
Ouais, c'est un manque de gestion, ça aussi.
Sans déconner. Et encore, heureusement. Tu es l'Olympique de Marseille, tu joues le podium, tu joues avec des champions, tu vas recruter 8 ou 9 Africains dans une équipe.
Bah, lui, il te dit, lui, il te dit que c'est des contrats de 5 ans, qu'il n'y a pas que la CAN, il n'y a pas qu'un mois.
Ouais, c'est des conneries, tous les 2 ans, tu as la CAN. Alors, je veux bien que la CAN, elle soit l'été.
La prochaine, elle sera l'été.
Quand t'as fait une saison, comment tu fais pour faire une rotation d'effectifs quand t'as 8, 9 joueurs en moins? Et plus 3 blessés comme Rongier ou. Moi, j'ai du mal à comprendre.
Après, il y a aussi des joueurs qui sont pas africains, notamment celui que j'ai cité tout à l'heure, qui est argentin. Et devant, ce serait bien qu'il fasse un bon match un jour.
Lui, il faut même plus le compter.
Non, mais il faut même plus le compter. Ouais, mais il est dans l'effectif, ce mec. Il joue encore aujourd'hui. Il a pas le droit d'apporter, lui.
Et 500 000 euros par mois.
Ouais, 450 000 euros par mois. L'Inter Milan, ils appellent tous les deux jours l'OM parce que là, il y a une clause. S'ils font la Ligue des Champions, ils sont obligés de lever l'option d'achat à 16 millions d'euros. À l'Inter, ils sont comme des dingues. Ils disent, attends, l'OM, vous êtes un peu loin de la Ligue des Champions, quand même. Donc, sincèrement, c'est fou, quand même, ça. C'est fou.
Merci, Jonathan. On reparlera de l'OM demain soir, les gars. Bon, il y a également eu des problèmes avant le match. Bagarre entre supporters dans les rues de Toulouse et aux alentours du stade. Il y a eu un blessé par une barre de fer qui s'est rendu à l'hôpital. Voilà, on va dire que les Marseillais ont commencé, les Toulousains ont répliqué. Tort partagé, a priori, selon les infos qu'on a ce soir. Mais il y a eu quand même de graves problèmes avant le match entre supporters des deux équipes. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir.
Hola chicos.
Salut Fred.
Décidément, le Barça, ça va pas fort.
Ah bah c'est une sale semaine. Hein.
Oui.
C'est Mala Negra. Hein. Mais oui, parce que en fait, ils sont même peut-être meilleurs que le Real ce soir. Hyper. Alors, victoire du Real 3-2, hein, quand même. Je pense que vous l'avez dit, mais on va rappeler le résultat. But dans le temps additionnel de Jude Bellingham comme à l'aller. Il y a eu 3 classicos cette année, 3 victoires du Real, dont 2 où je pense que le Barça était meilleur, c'est-à-dire au match aller et au match retour, pas en Supercoupe d'Espagne, ça avait été une boucherie, mais à chaque fois le but de Bellingham dans le temps additionnel qui donne la victoire.
Ça va, ces 2 premiers classicos à Bellingham, c'est plutôt pas mal quand même.
C'est plutôt pas mal réussi, ouais. Ouais. Et puis pour lui, ça lui fait du bien parce qu'il a un début d'année, enfin, l'année 2024 plus compliqué.
Depuis son retour de blessure, là,
ouais. Exactement. Ouais, là, il est, bon, là, il marque le but qu'il faut. Il va être, on sent qu'il reprend confiance et que physiquement, ça va mieux à l'approche de la demi-finale de la Ligue des Champions. En fait, et pourquoi, s'il y avait match nul, le Real avait 8 points d'avance, la Liga était terminée. Mais pourquoi c'est important ce but de Bellingham? C'est que la semaine prochaine, à Saint-Sébastien, ils peuvent jouer avec l'équipe B. Ils ont 11 points d'avance, plus le goal average particulier qui définit qui donne
avant la Ligue des Champions.
Avant la Ligue des Champions, ils vont pouvoir jouer avec l'équipe B samedi.
Donc tu penses que Fred, ils pourront faire reposer Vinicius et Bellingham
Ah bah ouais, je pense. Je pense que ça va être vraiment.
C'est interdit. Comment vous pouvez passer de Bernard Espagnol
qui va s'énerver.
Non, il commence à être fatigué. Là, franchement, ce soir, les mecs étaient fatigués.
On verra ce qu'il va faire.
On verra. Mais moi, j'imagine que là, attends, mais 11 points d'avance, tu peux aller perdre à Saint-Sébastien. Il y a plus que 6 journées derrière ça, donc.
Mais après, ça ferait chier de ne pas avoir Bellingham quand même et Vinicius sur ce type de match quand même pour la Liga. Parce que nous, Mbappé, on n'a pas le droit, nous.
Gilbert, il a envie de les voir, en tout cas.
Ouais, je comprends. Mais de toute façon, on en parlera demain soir, mais c'est la pauvre Liga, vous savez, il n'y a pas de sourd Liga. Plutôt, ou quand il s'appelle Tebas, il ne veut pas dépenser les 3,5 millions pour la goal line technologie.
Ah oui, il y a eu un ballon, on ne saura jamais s'il a franchi.
On ne saura jamais. C'est-à-dire que 28e minute, sur corner, but de Lamine Yamal. Enfin. On a vraiment le sentiment que le ballon entre. Hein. Donc le gardien Lounine ne repousse. Il n'y a pas de goal line technologie et les images du VAR sont tellement mauvaises que c'est impossible de voir en fait. L'arbitre est obligé de refuser le but parce qu'on n'a pas la preuve visuelle. La VAR n'a pas la preuve visuelle que le ballon est totalement entré. On a le sentiment qu'il est entré, mais c'est impossible à prouver. Donc l'arbitre prend la bonne décision. Mais c'est vraiment, Tebas se tape la honte là ce soir, quoi. Donc, alors pour se faire augmenter son salaire, ça, il y a de l'argent. Mais pour payer la Golden Technology, il n'y a pas d'argent. Donc c'est franchement, ça, il fallait que ça tombe ce soir, qui est le match de l'année en Espagne le plus regardé, qui est ce ridicule que fait la Liga, quoi. Parce que tous les championnats sérieux ont la goal line technology, mais pas. Et d'ailleurs, Rudiger est allé voir l'arbitre en lui disant, non, je crois que c'est pas Rudiger, c'est Gundogan, qui va voir l'arbitre en disant, regarde ta montre. Et ben non, il n'y a pas de montre, hein, en Espagne. Donc.
Bon, Fred, demain, tu.
On va revenir sur tout ça, bien sûr.
Tu détailleras 24 ans plus tard, évidemment. Merci beaucoup.
Adios, Ticos.
Et bonne soirée. Bonjour, avant de vous quitter, je vous signale quand même qu'il y a un code promo magnifique pour s'abonner à la revue de l'After. Là, on a quelques centaines d'abonnements seulement. Donc, faites vite 20% de réduction sur les abonnements annuels avec le code RMC24. Voilà, c'est cadeau. Et ça revient vraiment pas cher. Il y a aussi les abonnements mensuels à 3,90€ par mois. Donc il y a pas mal de formules sympas pour vous abonner à la revue de l'After et débattre avec nous les contributions de nos auteurs. Tout ça sur l'after.media, le site de la revue. Demain
donc, à retour.
Le retour de
du boss.
De Daniel. Daniel est là.
Il est chaud, hein, là il m'envoie des messages, il est chaud.
Flo sera là.
Ouais. Flo, t'es là demain. Ah ouais, ça va être chaud, fais attention.
Ce sera demain soir. Allez, demain, c'est lui qui doit faire attention.
Ah, il est pas là depuis jeudi. Il m'a dit, il a écouté, etc.
C'est que les matchs qui viennent de se passer là, ouais, lui ont appris l'humilité.
Je suis pas sûr. Il te prendra toujours.
On verra demain. Ou l'humilité. Ouais, cela dit, il est là dans le poker tout de suite.
Ah oui.
Sachez-le.
Ah oui,
c'est vrai. Allez, à demain.
RMC, l'After Foot.